RFI, 6h30, à Paris, 5h30, en temps universel. Le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez.
Une colonne de camions de 4x4 et de voitures armées, de mitraillettes et des soldats qui traversent la frontière en chantant.
Des militaires ougandais sont entrés hier à Mahagi dans l'Ituri, province de l'Est de la RDC. Il y a deux semaines, ils étaient déployés à Beni. Le porte-parole de l'armée congolaise sur place indique qu'un accord a été signé pour élargir la zone des opérations. 11 corps sans vie enterrés hier à Agadez, c'est ce que rapporte la Radio Nationale Nigérienne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une base militaire du nord du pays a été ciblée par une attaque djihadiste. Le JNIM revendique avoir tué 15 militaires. Au sommaire également, on est au Cameroun où le SDF a désigné son candidat pour la présidentielle, Joshua Ossi. Au Gabon où des associations et des partis lancent une charte de bonne conduite pour les élections. Et puis au Palais des Sports de Ouagadougou où le FESPACO s'est achevé hier et pour la première fois en 28 ans, c'est un cinéaste burkinabé qui repart avec l'étalon d'or de Yenanga. Depuis 2021, il mène des opérations conjointes avec l'armée congolaise pour lutter contre les rebelles ADF. Les soldats ougandais sont en Ituri dans l'est de la RDC. Il y a deux semaines, ils se sont déployés à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, et hier, Coralie Pierret, ils sont entrés à Mahagi, à 150 km au nord.
Une colonne de camions, de 4x4 et de véhicules armés de mitrailleuses. Ce samedi matin, des soldats ougandais franchissent le poste frontière de Mahagi, une localité au nord de la province de l'Ituri, en chantant, sous l'œil surpris des habitants. L'objectif est de protéger la population. Un accord a été signé pour élargir la zone des opérations, confirme le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, sans donner plus de détails. Les soldats ougandais vont-ils se battre? Et si oui, contre qui? À l'origine, ils avaient été invités sur le sol congolais fin 2021 dans le cadre de l'opération conjointe Shujaa pour neutraliser les ADF, un groupe de rebelles ougandais alliés à l'État islamique. Sauf que le territoire de Mahagi n'est pas dans la zone d'action des ADF, c'est plutôt celle en partie de la CODECO et des Zaïre, deux milices locales d'autodéfense communautaire. Il y a environ deux semaines, les Ougandais avaient déjà déployé des troupes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un renforcement en hommes qui coïncide avec l'expansion plus au sud du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. La frontière entre la RDC et l'Ouganda est notre zone d'influence. Rien n'y arrivera sans notre permission, a rappelé le chef d'état-major ougandais et fils du président Museveni sur son compte X personnel. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où deux opposants à Félix Tshisekedi ont été libérés hier soir. Seth Kikuni d'abord, le président du parti Piste pour l'émergence du Congo, était détenu depuis le mois d'août à la prison de Makala. Mike Mukebayi était lui en détention depuis près de deux ans. Il avait été condamné à 30 mois de prison pour propagation de faux bruits. Ils sont parmi les premiers bénéficiaires de la libération conditionnelle en application de la grâce présidentielle. Toujours pas de bilan officiel dans l'attaque d'une position de l'armée nigérienne. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi à Ekade, village du nord du pays dans la région d'Agadez. Des soldats ont été la cible d'une attaque djihadiste. Lisa Fabian, que sait-on exactement de ce qu'il s'est passé ?
Des hommes lourdement armés montés à bord de pick-up ont surpris les soldats nigériens dans leur sommeil. Après de violents combats, les assaillants ont réussi à prendre le contrôle de la position militaire, si l'on en croit les images publiées sur les réseaux sociaux. Selon des sources sécuritaires, le poste avancé a été complètement détruit et pillé. Une section comptant 30 à 40 hommes y était positionnée. Dans un communiqué, le JNIM revendique avoir tué 15 militaires nigériens et fait 5 prisonniers dans cette attaque qui leur a également permis de mettre la main sur des armes et 3 véhicules militaires. La radio nationale a indiqué que 11 corps sans vie ont été enterrés ce samedi à Agadez. Le chef d'état-major des forces armées nigériennes et son adjoint ont assisté aux funérailles. Ils se sont également rendus sur les lieux de l'attaque, a-t-on appris. Ekadei est une zone rocailleuse, difficile d'accès, dont la défense est complexe vu son éloignement des premiers renforts militaires. Une source sécuritaire estime que les responsables de cette attaque meurtrière ne veulent pas que le passage de leurs marchandises par ce corridor soit perturbé par la présence des forces armées nigériennes.
Lisa Fabian, en bref, la campagne présidentielle se prépare en Côte d'Ivoire. Hier, Laurent Gbagbo était en meeting à Cocody, quartier huppé d'Abidjan. Seulement voilà, à 8 mois du scrutin, l'ex-président n'est toujours pas sur les listes électorales. Il n'est donc ni électeur ni éligible. La commission électorale indépendante doit publier la liste électorale provisoire le 17 mars prochain. On doit voter pour élire un nouveau président ivoirien le 25 octobre prochain. C'est à cette période aussi que les Camerounais seront appelés aux urnes. Du côté de l'opposition, on commence à se préparer à l'échéance. Si Cabral Libi et Maurice Kamto se sont déjà déclarés, le Front social-démocrate a désigné hier son candidat. Sans surprise, car en l'absence de challenger, c'est Joshua aussi qui a été investi. Reportage au congrès extraordinaire du SDF de Richard Onanena.
Des sonorités traditionnelles font vibrer un palais des sports à moitié vide. Seul candidat en lice, Joshua aussi a été investi par acclamation devant une foule acquise à sa cause. Mama Boukar, président du SDF dans la région de l'extrême nord.
Je trouve que Joshua a toutes les qualités de représenter le social-démocratique front pour cette élection présidentielle.
Quelques minutes après son investiture, Joshua aussi a tout de suite tenu son premier discours de candidat. Il s'est dit prêt à prendre les rênes du Cameroun.
Je vous dis ce soir, ensemble nous allons construire un gouvernement au service du peuple, pas de l'élite qui accapare nos terres et nos richesses.
Le SDF propose un projet politique axé sur 5 points, notamment la réforme des institutions du pays. Le SDF promet surtout de résoudre la crise anglophone en 100 jours, selon Gladys Dioko, coordinatrice des femmes du SDF dans la région du littoral. Son parti est la formation politique qui peut mettre un terme à la crise anglophone.
We've always stood for a federal government.
Nous avons toujours milité pour un État fédéral. C'est ce que veulent les anglophones, même si certains appellent à la sécession. La plupart d'entre eux veulent rester libres à leurs frères francophones. La solution du SDF, c'est le fédéralisme.
Candidat en 2018, Joshua aussi avait terminé 4e de la présidentielle avec moins de 4% des voix derrière Cabral Libi et Maurice Kamto, tous deux candidats déclarés à l'élection d'octobre prochain. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
La présidentielle au Gabon, c'est dans un mois et demi, le 12 avril prochain. Les candidats commencent à se déclarer. Ils ont jusqu'à samedi prochain pour le faire. En attendant, le climat devient de plus en plus électrique à l'approche de l'échéance. Alors pour calmer le jeu, un groupe de partis politiques et des associations ont élaboré une charte de bonne conduite à tenir pendant et après la campagne. Et cette charte, Yves-Laurent Goma l'a lue pour RFI.
La charte est portée par le Parti patriotique gabonais et le Mouvement des citoyens du Gabon, une initiative en réaction à des dérives constatées dans le pays à 6 semaines de la présidentielle. Alain Simplice Bungwere, président du Parti patriotique gabonais.
Il y a des attaques qui fusent ça et là, des clans qui se forment. Nous arrivons à une montée du tribalisme. Toute chose qui ne concourt pas à la paix et à l'unité nationale qui est chère à notre pays.
Exemple marquant, il y a 2 semaines, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Biliebinze a été séquestré et interdit de tenir des causeries politiques dans 2 villes du nord du pays. Pour Alain Simplice Bungwere, cette charte est donc un pacte de non-agression.
Il s'agit d'appeler tous les candidats à l'élection présidentielle au respect de leurs antagonistes, de s'abstenir des propos injurieux, d'incitation à la violence, des calomnies, que tout le monde puisse respecter les résultats des urnes et en cas de contestation, se retourner vers les instances habilitées.
Des copies de la charte ont été remises au Conseil national de la démocratie, une institution qui regroupe tous les partis politiques. Objectif, la faire signer par tous les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Des centaines de personnes rassemblées hier au Cap en Afrique du Sud. Manifestation pour rendre hommage à Mohsin Hendricks, le premier imam gay au monde, a été tué par balle il y a quelques semaines alors qu'il était au volant de sa voiture. Son assassinat avait choqué le pays. Cyril Ramaphosa parlait alors d'une attaque odieuse. À ce jour, personne n'a été arrêté dans cette affaire. Le président sud-africain était hier en Namibie. Des milliers de personnes ont assisté aux obsèques du premier président du pays, Sam Nujoma, le père de l'indépendance. Décédé le 9 février à l'âge de 95 ans, il a été enterré dans un mémorial près de la capitale, Pierre Firsion.
La dépouille du père de l'indépendance namibienne a été mise en terre à la mi-journée au son de 21 coups de canon. Des avions de chasse ont alors survolé le carré des héros, un mémorial dédié aux héros de la lutte pour la libération du pays, situé en périphérie de Windhoek. Le cercueil de Sam Nujoma, recouvert du drapeau namibien, était arrivé sur place en milieu de matinée après un périple long de plusieurs jours. Depuis le 20 février, la dépouille du premier président namibien a parcouru le pays avant de regagner la capitale mercredi. Hier, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles, des chansons populaires à l'époque de la lutte pour l'indépendance ont été entonnées à la gloire de Sam, comme la population aimait affectueusement l'appeler. Le président namibien N'Golo Mumba lui a rendu un hommage appuyé, le qualifiant de géant et de fils le plus éminent du pays. De nombreuses personnalités se sont ensuite succédées pour déposer une gerbe sur sa tombe. Plusieurs présidents en exercice ont assisté à la cérémonie, comme le sud-africain Cyril Ramaphosa, l'angolais João Lourenço ou le zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. D'anciens présidents avaient également fait le déplacement, à l'image du sud-africain Thabo Mbeki et du congolais Joseph Kabila.
Récit signé Pierre Firsion, et noté qu'hier, 1er mars, a été décrété jour férié en l'honneur de Sam Nujoma. On part pour le Burkina Faso avant de refermer ce journal. Ouagadougou, dont le palais des sports était archi-comble hier et l'ambiance totalement électrique pour assister au dénouement de la 29e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision, le plus grand rendez-vous du 7e art sur le continent, a couronné hier son vainqueur, Ehouda Ibrahim. C'est un film burkinabé qui l'a emporté.
Les talons d'or de Yennega revient au Burkina Faso 28 ans après. Gagné en 1987 par Gaston Caboret, c'est le burkinabé Dany Kouyaté qui arrache le Saint Graal du FESPACO 2025. Son film Katanga ou la danse de Scorpion est, selon le jury, à caractère intemporel et universel. Le film marque son ancrage culturel dans l'actualité du pays. Il a également remporté le prix du public remis pour la première fois au FESPACO cette année. Tout comme le jury, le vainqueur a rendu un vibrant hommage au cinéaste malien Souleymane Cissé, choisi comme président du jury mais décédé quelques jours avant le début du festival. Un artiste peut partir mais ne meurt jamais, a affirmé à la tribune l'écrivain membre du jury Martin Zongo, alors que la salle applaudissait debout la mémoire de Cissé, deux fois vainqueur de l'étalon d'or. Quant à l'étalon d'argent, il a été décerné au réalisateur somalien Mo Harawi pour son film Le village aux portes de paradis. Enfin, l'étalon de bronze de cette édition est revenu à la Zambienne Rangano Nyoni, devenir une pintade pour sa singularité et sa subtilité.
Ouda Ibrahim Dany Kouyaté qui a dédié hier dans son discours son prix évidemment à Souleymane Cissé. Il est dans nos cœurs et dans nos esprits. Il a tracé la voie que j'essaie de suivre, a-t-il déclaré. Il a également dédié son prix, je cite, au vaillant peuple du Burkina Faso et tous ceux qui sont morts au champ de bataille. Dany Kouyaté succède ainsi au Tunisien Youssef Chebbi, vainqueur de l'étalon d'or de l'édition 2024. Il est bientôt 5h42 à Ouagadougou et je vous laisse avec Julien Coquelle-Rohem.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, un nouveau.